Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, jeudi 3 mai 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, à Gao, au Mali, des hommes lourdement armés à bord de motos et un véhicule ont attaqué la base du Front de Libération du Nord, un groupe d'autodéfense. Au Burkina Faso, une école primaire a été incendiée et un marché saccagé par des djihadistes présumés. Et la procureure de la CPI a terminé sa visite en RDC en rappelant que les auteurs des violences pourraient faire l'objet de poursuites. La presse américaine fait les choux gras avec l'affaire d'une actrice de film porno qui accuse le président Trump. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, au sortir de la ville de Gao, des hommes armés ont attaqué une base du Front de Libération du Nord, mouvement d'autodéfense. Bilan, un mort et deux blessés. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Les assaillants venus sur des motos accompagnés d'un véhicule 4x4 ont attaqué la base du FLN, Front de Libération du Nord, situé au sortir de la ville sur la route de Kidal, à quelques 200 mètres du checkpoint des Fama. Il était alors 3h10 lorsque les premiers coups de feu ont retenti. Ayouba Mislim, commandant de zone du FLN, nous explique.
Ils ont garé leur moto à 300 mètres d'ici, 300-400 mètres de la base, et ils ont rampé pour rentrer dans la base. C'est de vrais commandes. Ils n'ont pas réussi de faire ce qu'ils veulent faire parce qu'ils voulaient faire comme d'habitude. Tu fais tac-tac, nous, les gens fuient, tu prends les armes, le véhicule comme tu veux et tu rentres. Ça n'a pas été le cas.
Les combats ont duré plusieurs longues minutes avec ce bilan que nous livre le commandant de zone du FLN.
Les véhicules, tu vois, ils ont cassé tous les pneus, ils ont tiré sur les pneus, ils ont tiré sur le moteur. Des hommes qui sont venus faire du mal et qui ont un seul mot dans la bouche, Allahu Akbar. Les combattants qui sont là ont répondu. Ça n'a pas été facile. Nous, on a eu quand même un mort, deux blessés. Et de leur côté aussi, ils ont eu des blessés. Je ne sais pas s'il y a de morts ou pas.
Ce matin, une forte délégation de l'armée malienne s'est rendue sur les lieux pour apporter leur soutien aux combattants du FLN qui sont parvenus à repousser les assaillants. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'école primaire de Bafina, à 180 km au nord de Ouagadougou, a été incendiée hier soir par des individus armés qui ont également saccagé le marché d'un village voisin. Nathalie Barge.
Des individus armés ont incendié l'école primaire de Bafina et le logement du directeur après l'avoir ligoté, selon un habitant. Une dizaine d'individus en motocyclette sont arrivés en tirant en l'air, a témoigné un instituteur, précisant que certains sont ensuite allés à Gwenbila pour y saccager des échoppes et le quartier général des Kolwéogo, un groupe d'autodéfense local. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques meurtrières dans le nord du pays où plus de 200 établissements scolaires ont dû fermer, privant d'école quelques 20 000 élèves et 800 enseignants. En avril, un instituteur a été kidnappé parce qu'il parlait français aux élèves. Le groupe État islamique dans le Grand Sahara a revendiqué l'enlèvement. Le tribunal de Djibo, près de la frontière malienne, a été fermé pour raison de sécurité, le personnel craignant des représailles djihadistes. L'armée a indiqué avoir interpellé une centaine de personnes lors d'opérations de ratissage le mois dernier.
Côte d'Ivoire, un peu plus de 2000 militaires vont profiter du plan de départ volontaire de l'armée en pleine restructuration pour diminuer ses effectifs pléthoriques. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné. Dans le nord du Nigeria, 13 personnes ont été tuées dans des affrontements dans l'état de Zamfara. D'après la police, des échanges de tirs ont opposé des membres d'une milice locale d'autodéfense à un gang de voleurs de bétail dans le village de Fankashi. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issoufou Ngondé a été reconduit dans ses fonctions 2 jours après avoir présenté la démission de son gouvernement. Monsieur Ngondé doit maintenant former un nouveau gouvernement, probablement demain, c'est ce qu'a indiqué un porte-parole de la présidence. Il faut dire que la Cour constitutionnelle avait ordonné la dissolution de l'Assemblée nationale car le gouvernement n'avait pas rempli ses obligations d'organiser des élections législatives avant la fin avril. République centrafricaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au calme et exhorte les autorités à enquêter sur les attaques répétées récentes dans le pays. République démocratique du Congo, la procureure de la Cour pénale internationale a mis fin à sa visite de 2 jours à Kinshasa. Fatou Bensouda a déploré les violences à répétition et rappelé que les auteurs pourraient faire l'objet de poursuites par la CPI. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je suis inquiète de la situation critique et des épisodes de violence qui m'ont été rapportés à Kinshasa, à Beni, dans le Kassai ainsi que dans d'autres parties de la RDC, a dit d'entrée Fatou Bensouda. Certains actes observés à ces occasions pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, précise-t-elle. Le procureur de la CPI qui a échangé sur ces questions avec le président Joseph Kabila ainsi que des responsables politiques et judiciaires de la RDC, avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, avec l'opposition et la société civile recommandent aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des enquêtes véritables soient menées sur des violences alléguées et que les acteurs impliqués soient traduits en justice. Fatou Bensouda a également insisté sur la lutte contre l'impunité qu'elle qualifie de primordiale pour la stabilité sociale en République démocratique du Congo. Les appels des nombreuses victimes pour que justice leur soit rendue doivent être entendus, a-t-elle insisté. Elle a par ailleurs noté des progrès réalisés par les autorités dans la lutte contre l'impunité et les encourage à les renforcer. Mon bureau, a-t-elle conclu, poursuit avec une extrême vigilance son travail de terrain en République démocratique du Congo. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Soudan, le président Omar El-Béchir a ordonné la fermeture de 13 missions diplomatiques à l'étranger et une réduction d'effectifs du ministère des Affaires étrangères pour des raisons économiques. Yacouba Ouedraogo.
La fermeture des 13 missions diplomatiques et la réduction du personnel du ministère des Affaires étrangères interviennent 2 semaines après le limogeage d'Ibrahim Gandou, alors chef de la diplomatie. Il avait laissé entendre que des diplomates en poste à l'étranger n'ont pas été payés depuis des mois. Le président Béchir a aussi ordonné de limiter à 1 personne l'effectif diplomatique dans 7 missions et de réduire de 20% le nombre d'employés administratifs dans les autres ambassades. Il a décidé de supprimer le personnel administratif du ministère à Khartoum. Les diplomates seront désormais chargés des tâches administratives. Khartoum explique sa décision par la volonté de faire des économies. Le pays a subi un coup dur avec la sécession du Soudan du Sud en 2011, une situation qui l'a amputé de la plus grande partie de ses revenus pétroliers.
Le gouvernement togolais ne se sent pas concerné par l'affaire judiciaire en cours en France contre l'homme d'affaires français Vincent Bolloré, mis en examen pour corruption sur les conditions de l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo. De son côté, le président guinéen Alpha Condé a annoncé qu'il allait porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse. Alfonso Dhlakama, ancien guérillero et chef du principal parti d'opposition au Mozambique, l'Arinamo, est décédé à l'âge de 65 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a assuré aujourd'hui que l'argent versé par son avocat à une actrice porno qui prétend avoir eu une liaison avec lui ne provenait pas de ses fonds de campagne. Les précisions de Jacques Aristide.
Le président américain dément pour la première fois publiquement la véracité des dires de Stormy Daniels, alias Stephanie Clifford, des accusations fausses et relevant de l'extorsion, écrit-il sur Twitter. L'actrice a dit avoir eu une liaison d'une nuit avec M. Trump en 2006. Elle a affirmé que 130 000 dollars lui avaient été versés peu de temps avant l'élection présidentielle de novembre 2016 par Michael Cohen, l'avocat de M. Trump, dans le cadre d'un accord de confidentialité destiné à la faire taire. Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui a rejoint récemment l'équipe des avocats du président, a déclaré hier que M. Trump avait remboursé les 130 000 dollars versés par son avocat. Le président Trump a confirmé ce matin que Michael Cohen n'avait pas utilisé des fonds de sa campagne présidentielle pour payer l'actrice de film X. Monsieur Cohen a perçu des honoraires mensuels, pas de ma campagne et sans lien aucun avec ma campagne, ajoute le président. La Maison Blanche a démenti toute liaison entre Monsieur Trump et Madame Daniels. Cette dernière a porté plainte contre le président pour diffamation.
La Ligue arabe a exprimé sa solidarité envers le Maroc qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran mardi en accusant Téhéran d'avoir facilité via le Hezbollah libanais une livraison d'armes aux indépendantistes sahraouis du front Polisario. Dans le nord-ouest de la Syrie, une voiture piégée a explosé devant les locaux de l'International Rescue Committee à Dana, dans la province d'Idleb, faisant au moins 2 morts. C'est ce qu'a rapporté l'organisation humanitaire qui a perdu un de ses employés. Sachez aussi qu'un avion de combat russe s'est écrasé dans la mer Méditerranée après avoir décollé d'une base en Syrie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Eric Manirakiza.
En RDC, la principale société minière, la GK Mine, et le millionnaire belge Georges Forest ont mis fin ce mercredi à leur différend sur l'exploitation de terrils de Lubumbashi qui alimente le plus gros four métallurgique d'Afrique pour produire un alliage contenant du cobalt et du cuivre. L'accord transactionnel prévoit que le groupement du terril de Lubumbashi transfère la pleine propriété de l'usine à la GK Mine et s'engage à réparer le four de l'usine. L'usine produit environ 5500 tonnes de cobalt et 3500 tonnes de cuivre par an. La montagne de terril de Lubumbashi est constituée de 14,5 millions de tonnes de résidus du traitement du cuivre. L'économie de la Guinée connaît une croissance rapide. En 2017, elle a enregistré un taux de plus de 8% d'après le FMI. Un regain des activités du secteur minier a favorisé cette performance. En 2016, la mine représentait environ 98% du total des revenus d'exportation de la Guinée. Par contre, le FMI indique que l'inflation globale dans le pays continue de croître et a atteint près de 9% l'année passée. Le déficit budgétaire se chiffre à 1,1% du produit intérieur brut. Pour la même période, l'institution de Bretton Woods table sur une croissance de 6% cette année. Pour la première fois en 7 mois, le déficit commercial des États-Unis a diminué en mars. C'est à la suite de l'effet d'exportation record, notamment vers la Chine, et combiné à un recul des importations.
Info sur les stades, les sports avec Bakassi Koura. Bonsoir Bakassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Suspense entre l'Atlético et Arsenal en demi-finale retour de l'Europa League ce soir.
Oui, match nul, 0-0. Nous nous approchons de la fin de la première partie. Donc après le nul, un but partout à l'aller, l'Atlético peut donc s'appuyer sur sa solidité à domicile et ses bonnes performances européennes ces dernières années pour remporter cette partie. 2 titres en Europa League en 2010 et 2012 et 2 finales de Ligue des Champions en 2014 et 2016. En face, les Gunners rêvent d'offrir une sortie prestigieuse à leur entraîneur emblématique Arsène Wenger qui quitte le club en fin de saison après 22 ans. Et Morgan, je rappelle, c'est toujours 0-0 entre Arsenal et Atlético Madrid.
Et donc, à la même heure, les Autrichiens de Salzbourg reçoivent l'Olympique de Marseille.
Oui, Marseille a pris un bel avantage à l'aller dans un vélodrome survolté grâce au but de Florian Thauvin et du Camerounais Clinton Ndié. Et donc, en ce moment, c'est score vierge entre les deux équipes, 0-0. Il faudra toutefois se méfier de Salzbourg qui est resté invaincu devant son public cette saison, qui avait battu l'OM 1-0 pendant la phase de groupe. Et donc la suite de cette rencontre nous dira si l'OM peut conserver son avantage.
Et sur le continent, Sébastien Migner est le nouveau sélectionneur du Kenya.
Oui, le français ancien entraîneur du Congo a été nommé aux commandes de la sélection donc du Kenya, vacante depuis le départ du Belge Paul Putt en février. Sa première mission est de qualifier le Kenya pour la CAN Cameroun 2019. Le Kenya a perdu son premier match des éliminatoires face à la Sierra Leone, 2-1, dans une poule qu'il partage aussi avec le Ghana et l'Éthiopie.
4 pays africains candidats aux JO de la jeunesse 2022.
Oui, le Comité international olympique souhaite confier l'organisation à un pays africain. Le Botswana, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont candidats. Le pays organisateur sera connu les 8 et 9 octobre prochains en Argentine.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriet, que vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Venons-en au sort du général Jean-Marie Moukoko, détenu au Congo-Brazzaville depuis la présidentielle de 2016 et qu'il a perdu. Ses avocats ont saisi les instances internationales pour détention arbitraire. Marc Mapingou, représentant de l'ancien candidat, compte se rendre bientôt aux États-Unis et au Royaume-Uni pour plaider la cause du général. Pour lui, c'est le début d'une campagne internationale pour sa libération. Joint par Bagassi Koura, il parle des conditions de détention de Jean-Marie Moukoko.
Le général Jean-Marie Michel Moukoko se porte comme un prisonnier. C'est un prisonnier qui ne voit pas la lumière du jour. C'est un prisonnier qui vient de perdre sa sœur hier même et qui ne verra, hélas, pas comment vont s'organiser les obsèques de sa sœur. C'est un prisonnier qui est malheureusement dans une situation où il ne peut pas se défendre sérieusement parce qu'il est prisonnier dans un état voyou, c'est-à-dire dans un état qui ne respecte pas le droit et qui ne respecte pas la justice.
On dit qu'il a des problèmes de santé, qu'il est détenu dans des conditions difficiles.
Oui, bien sûr. Depuis le premier jour, il est détenu dans des conditions difficiles. Nous savons bien que le général et les Congolais le savent.
Alors, et donc c'est pour ça que vous et les avocats du général Moukoko, vous vous êtes tournés vers les Nations Unies. Expliquez-nous vos attentes.
Écoutez, déjà, nous avons voulu internationaliser le problème de Moukoko et le problème de détenus, tous les détenus politiques. Dans le cas de Moukoko, nous avons épuisé toutes les voies de recours internes et ayant épuisé toutes les voies, nous avons compris qu'il fallait se retourner vers le groupe de travail de l'ONU pour la détention arbitraire, pour lequel on demande donc au gouvernement congolais de l'injonction de libérer le général Moukoko.
Et vous comptez donc, aussi saisir la Commission africaine des droits de l'homme?
Voilà, nous allons aussi nous diriger vers le comité des droits de l'homme et pour les mêmes causes.
Que ce soit les Nations Unies ou l'Union africaine, ces instances émettent des avis non contraignants. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement?
Bon, ce que nous recherchons, pour être objectif, c'est de dire à ces États, enfin à ces organismes, que nous avons des prisonniers politiques dans ce pays qui sont injustement incarcérés. Et que nous avons besoin qu'on lise le droit et qu'on fasse appliquer le droit, mais pas une parodie de droit, puisqu'on les a retenus de façon arbitraire. Et comme on les a retenus, et notamment le général Moukoko, de façon arbitraire, alors nous voulons effectivement qu'il y ait réparation.
Marc Mapingou, porte-parole du général Jean-Marie Moukoko, détenu au Congo-Brazzaville. À noter que VOA continue de tenter d'avoir une réaction des autorités congolaises.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sahel, 5 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire, 1,6 million d'enfants sont en risque de malnutrition aiguë sévère et 2,5 millions d'éleveurs et agro-éleveurs ont besoin d'une aide urgente aux moyens de subsistance. C'est ce qu'ont affirmé les organisations des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial. De Dakar, le reportage de Seydina Abagui.
La sécheresse, la flambée des prix des denrées alimentaires et les conflits vont entraîner des millions de personnes dans la faim et la malnutrition dans certaines parties du Sahel si la communauté internationale n'agit pas maintenant. Cette situation est due en grande partie à l'intensification des conflits armés qui perturbent les services de base et les moyens de subsistance, ainsi qu'à la cohésion sociale des populations, comme l'indique Abdou Dien, directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Quand vous regardez les pays du Sahel, vous savez que le terrorisme terrorisme s'installe et effectivement ça crée de l'insécurité. Cette insécurité fait que beaucoup de personnes qui dépendent de l'agriculture n'arrivent plus à s'adonner à leurs activités traditionnelles. Alors donc, en même temps, il faut faire face à ces problèmes d'insécurité alimentaire, mais aussi il faut faire face aux problèmes d'insécurité tout court.
Dans les six pays, 1,6 million d'enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année, soit une augmentation de 50% par rapport à la dernière crise nutritionnelle majeure du Sahel en 2012. L'insécurité alimentaire, les pratiques alimentaires inadéquates ainsi que le manque d'accès à l'eau potable sont les causes des niveaux élevés de malnutrition chez les enfants. Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, déclare qu'il faut agir vite.
L'action doit être prise maintenant. Trop d'enfants sont à risque. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent pour que nous commencions à mettre en place les réponses nécessaires. Il y a une solution. Simplement, il ne faut pas attendre. Chaque enfant doit être détecté. Dès qu'il est détecté, il doit être pris en charge. Et si c'est le cas, les chances de succès seront là. Donc il faut agir tout de suite pour traiter ces enfants et traiter les causes dans le long terme. Maintenir l'accès aux services, maintenir la paix et la cohésion sociale.
L'UNICEF, la FAO et le PAM ont développé une réponse conjointe pour couvrir les besoins alimentaires, protéger les moyens de subsistance et lutter contre la malnutrition à court terme. Kumba Sow, coordonnatrice sous-régionale pour la résilience en Afrique de l'Ouest dans le Sahel, estime que des moyens de riposte sont disponibles.
Le Sahel connaît ses crises, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement et nous savons prévenir maintenant puisque nous avons des analyses qui nous permettent de savoir combien de personnes seront touchées, où est-ce qu'elles seront touchées et de ce fait on peut mieux se préparer à les assister pour nous assurer que ça ne dégénère pas en une crise, etc.
L'UNICEF, la FAO et le PAM appellent à un soutien urgent de la part de tous les partenaires, y compris les donateurs, pour aider à atténuer la détérioration actuelle dans le Sahel. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Reporters sans frontières veut lutter contre la désinformation et la manipulation par les médias et les réseaux sociaux. En Afrique subsaharienne, l'organisation constate une campagne de désinformation en ligne difficile à dont il est difficile d'identifier l'origine. Elle note aussi une légère amélioration en matière de liberté de la presse, notamment en Gambie, en Angola et au Zimbabwe. Pour connaître les difficultés qui se posent actuellement pour exercer le métier de journaliste, Eric Manirak qui a joint à Paris le responsable du bureau Afrique auprès de RSF, Arnaud Froger.
Il est très difficile pour des journalistes de couvrir des manifestations et de ne pas être pris à partie par les forces de l'ordre. On l'a vu en 2017, notamment au Togo et en Guinée. Près de la moitié des pays, à savoir 22 pays sur 48, sont classés soit en rouge, soit en noir. La situation concernant la liberté de la presse est soit très difficile, voire critique. Il y a des pays comme l'Érythrée et Djibouti, par exemple, où il n'est pas simplement difficile d'être journaliste, c'est tout bonnement impossible. Le journalisme libre et indépendant n'est pas autorisé dans ces pays. Il y a des pays qui sont en guerre, comme le Soudan du Sud, le Burundi, par exemple, comme la Centrafrique également, où il est extrêmement difficile d'être journaliste parce que les gouvernants parfois prennent à partie les journalistes et les accusent de ne pas faire de publications qui vont dans le sens de ce que voudraient les gouvernants. Et puis, ils sont parfois pris à partie par les belligérants.
Mais la Tanzanie n'est pas en guerre.
La Tanzanie est un bon exemple. Depuis que le président Magufuli est arrivé au pouvoir en 2015, il a mené une véritable politique liberticide à l'égard des médias. Des radios ont été suspendues. Des journalistes ont été arrêtés. Le dernier fait d'armes, c'est cette loi blogocide qui vise à empêcher la diffusion d'informations en ligne en obligeant les médias et les blogs présents sur le web à payer une licence dont le coût est exorbitant pour être autorisé à diffuser. Et c'est aussi un pays dans lequel on est sans nouvelles d'un journaliste d'investigation qui s'appelle Azory Gwanda et qui est porté disparu depuis la fin du mois de novembre 2017, qui est un journaliste qui enquêtait sur la disparition mystérieuse, des assassinats mystérieux de fonctionnaires locaux et de policiers, et pour lequel aucune enquête ne semble être sérieusement menée de la part des autorités tanzaniennes.
Et comment vous évaluez les conditions de travail en Afrique?
Une des grandes tendances qui inquiète, c'est l'utilisation de plus en plus massive des coupures Internet et des restrictions d'accès aux réseaux sociaux. Nous avons à Reporters sans frontières recensé près d'une dizaine de pays au cours des deux dernières années qui ont eu recours à ces méthodes. Ça a été le cas en Éthiopie, ça a été le cas au Tchad, plus récemment pendant l'élection présidentielle en Sierra Leone, la République démocratique du Congo, qui a recours à des coupures Internet à la veille de chaque grande manifestation désormais. Et puis le Cameroun, qui, au cours de l'année 2017, a privé les ressortissants anglophones d'Internet pendant plus de la moitié de l'année. Le Cameroun, qui est aujourd'hui le seul État en Afrique subsaharienne à être poursuivi devant son propre conseil constitutionnel pour le blackout numérique qu'il a imposé à ses ressortissants des régions anglophones.
Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique à Reporters sans frontières. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumami, à la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Rien n'est plus important pour l'avenir de l'Afrique subsaharienne qu'une source d'énergie abordable et fiable sans laquelle aucune entreprise ne peut réussir. L'énergie électrique est un ingrédient crucial de notre réponse à l'un des plus importants défis de développement de notre temps, le déplacement des familles et des communautés à travers le monde, a déclaré l'administrateur de l'USAID, Mark Green, au 4e sommet annuel Powering Africa. La connectivité permet aux déplacés de rester en contact avec leurs familles et amis, de remettre de l'ordre dans leur vie avant de chercher à s'installer dans un nouvel endroit. Toutefois, en Afrique subsaharienne, des millions de déplacés vivent pour une durée indéterminée dans des camps sans électricité. Et c'est ici que Power Africa intervient. En janvier, l'USAID a annoncé un nouveau partenariat entre Power Africa et Mastercard qui vise à connecter des millions de déplacés d'Afrique au réseau électrique et leur permettre d'accéder aux outils digitaux et à l'Internet. À travers Power Africa, nous avons aidé à mobiliser plus de 20 partenaires allant de Mastercard à Mercy Corp, en passant par Energy Peace Partners. Ensemble, nous œuvrons pour électrifier et connecter 5 camps des réfugiés, 3 en Ouganda et 2 au Kenya, a expliqué l'administrateur Green de l'USAID. Power Africa est réellement un partenariat réussi entre le gouvernement et le secteur privé. Power Africa marche, a dit l'administrateur Green. L'initiative a aidé 58 millions de personnes à accéder à l'électricité grâce au mécanisme du marché et de l'entrepreneuriat. Elle a impliqué plus de 140 partenaires du secteur privé et mis à contribution les autorités de régulation pour faciliter des transactions, se chiffrant à 14,5 milliards de dollars. Côté gouvernemental, l'USAID fournit l'assistance technique et des garanties de prêts pour faciliter les investissements. Le Millennium Challenge Corporation prête main forte aux réformes du secteur énergétique. Le département d'État œuvre, de son côté, au renforcement de la gouvernance dans le domaine de l'énergie, tandis que l'Agence pour les investissements privés à l'étranger finance les infrastructures énergétiques à travers le continent. Et cela devrait être le temps de l'Afrique, a déclaré l'administrateur Green de l'USAID. Le continent africain dispose d'un potentiel énorme, ses ressources, ses terres agricoles et ses pâturages, mais surtout l'impressionnant esprit de résilience et de joie qui habite un si grand nombre des habitants. Comme l'a dit le président Trump l'automne dernier en marche de l'Assemblée générale des Nations unies, en ce qui concerne l'Afrique, les perspectives sont brillantes.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
bienvenue à bord.